Bonjour et bienvenue. Question politique commence maintenant. Merci, chers auditeurs, de nous être fidèles et de faire de cette émission le premier rendez-vous politique du week-end. L'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info, il occupe le poste stratégique de porte-parole du gouvernement. Benjamin Griveaux viendra nous rejoindre dans une poignée de minutes. Vos questions, vos commentaires, vos remarques sont les bienvenus. Pour intervenir, un mot-clé, question Paul.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Et avec moi en studio, l'équipe du dimanche, je suis ravi de les retrouver. Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions, bonjour Nathalie.
Bonjour Ali.
Françoise Fressoz du journal Le Monde, bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Et Cyril Graziani de France Inter, salut Cyril.
Bonjour Ali.
Tout va bien ?
Écoutez.
Eh ben alors allons-y, avant d'accueillir Benjamin Griveaux, rapide tour de table pour commencer. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? On commence avec vous Nathalie.
Je voulais saluer la performance d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, 12h30, c'est Marathon Man. Il a épuisé les journalistes, mais ça devrait lui faire plaisir. Il a affronté toutes les colères, il y est allé. Il a vraiment été assez courageux parfois de s'y coller. Et puis il y a eu la puissance des images. Il a probablement un peu corrigé parce qu'il est très stratège, cette image de président des villes. Il n'est pas encore devenu un ami de la ruralité, mais on s'en rapproche. Et puis, très malin ce matin, le recul de Nicolas Hulot sur le glyphosate, pour en donner un peu à tout le monde. Et puis, je voulais finir sur le presque président des animaux. On l'a vu câliner une poule, Agathe. Après,
Agathe.
On a vu la poule Agathe sur BFM en plateau. Donc, on est tombé dans une espèce de délire d'image.
Qu'est-ce qu'elle a raconté?
elle était surtout très calme et c'était formidable pour le patron de louer. Et il a pratiqué le porté de chevreau comme pas un. Et puis seule ombre au tableau quand même pour moi, mais ça c'est une opinion personnelle. Je pense qu'il se moquait éperdument de la cause animale, même si on l'avait embrassé un chevreau, et qu'il est plutôt du côté du lobby de la chasse. Il est pour la chasse à courre. Il cajole les chasseurs. Et ça c'est quelque chose quand même qui n'est pas très sympathique, dirons-nous.
Françoise.
Eh bien moi, je vais revenir exactement comme Nathalie sur cette relation d'Emmanuel Macron avec le monde paysan, parce que je pense que c'est ce qui a marqué la semaine et que ça montre aussi l'émergence d'un nouveau style présidentiel que j'appellerais guerrier. Alors le président de la République savait très bien que le rendez-vous serait difficile parce qu'il y a une vraie crise du monde rural et qu'il est un peu perçu comme le président des villes. Donc dès mercredi, il avait invité à l'Élysée un millier de jeunes agriculteurs pour le déjeuner. On pensait qu'il allait les câliner. Eh bien pas du tout, il les a rudoyés avec des propos du genre, ouvrez les guillemets, est-ce que vous pensez que les difficultés de la filière bœuf depuis des années sont liées à l'accord Mercosur qui n'est même pas signé, alors même qu'on sait que les agriculteurs sont vent debout contre ce traité de libre-échange que l'Union européenne pourrait signer prochainement avec des pays d'Amérique latine. Et samedi, rebelote, le président de la République est resté 12 heures au salon de l'agriculteur, pas pour faire de la câlinothérapie, mais pour répondre pied à pied aux attaques et aux sifflets. Alors on est loin de la figure du président jupitérien retranché à l'Élysée. On est loin aussi de la figure Jacques Chirac, qui aimait caresser le cul des vaches. On a affaire à un président guerrier qui s'inspire d'un autre guerrier, Clémenceau, auquel il rend d'ailleurs hommage cette semaine dans le magazine Le 1. Écoutez, je cite. « La France regardait ce petit homme tonner à la chambre, houspiller ses généraux, se ruer sur les champs de bataille et partout le pays comprenait qu'une flamme renaissait et que malgré l'extrême difficulté des temps, une forme d'idéal pouvait le mener à la victoire. La France crut dans lui parce qu'il croyait en la France. » Fermez les guillemets. Ah, si c'était aussi simple.
Et ça ressemble aussi à un autoportrait, c'est à lire dans le hors-série du magazine Le 1, consacré donc à Clémenceau. Cyril, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ?
La réapparition de Marion Maréchal Le Pen, avec cette question que beaucoup ont posée. Est-ce qu'elle refait de la politique ? C'est une intervention à un colloque ultra-conservateur à Washington pour présenter son école de sciences politiques qu'elle veut monter. Une tribune dans l'hebdomadaire réactionnaire Valeurs Actuelles. Marion Maréchal Le Pen est de retour sur la scène médiatique. Elle jure ne pas avoir d'ambition politique pour l'instant, mais à sa façon, elle ringardise sa tante et Laurent Wauquiez. Transgression, elle a bien compris ce que ça signifiait. Et petit à petit, l'oiseau, puisqu'on parle du salon de l'agriculture, l'oiseau fait son nid. Et les deux cités, Wauquiez, Marine Le Pen, auront tout intérêt, je pense, à surveiller de près les petites cartes postales que Marion Maréchal Le Pen ne va pas hésiter à envoyer.
Merci Cyril. Et pour lui, quel est le fait marquant de la semaine? On va le demander à notre invité. Il est secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Benjamin Griveaux s'installe dans le studio 221 de la Maison de la Radio. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bienvenue. Votre boulot, c'est notamment de faire la pédagogie des réformes et ça va vite, très vite, difficile à suivre parfois. On compte sur vous pour nous expliquer tout ça. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité, Benjamin Griveaux ?
Ce qui m'a marqué dans l'actualité, c'est quelque chose dont j'aurais aimé qu'elle prenne plus de place dans l'actualité. Alors, j'ai pas de doute que vos médias respectifs l'ont beaucoup traité. C'était la situation qu'on connaît au Syrie. On a beaucoup commenté le confessionnal de Laurent Wauquiez cette semaine. J'aurais aimé qu'on passe autant de temps sur la situation qui se passe à la Ghouta, qui est la partie orientale de Damas. Et moi, je veux saluer hier soir un accord à l'unanimité qui a été trouvé enfin au Conseil de sécurité des Nations Unies après une semaine diplomatique où les efforts, notamment de la France, ont été nombreux, où il y a eu une initiative commune entre la chancelière Merkel et le président de la République auprès du président Poutine, où d'ailleurs encore cet après-midi ils s'entretiendront au cours d'un entretien téléphonique, pour permettre d'arriver à une trêve humanitaire d'un mois, pour permettre de déployer les ONG sur site, de sortir les populations civiles, les femmes, les enfants qui sont sous les bombes. On a eu plus de 350 à 400 000 morts en Syrie depuis 7 ans, et il y a eu depuis le début de la semaine des centaines de morts sous les bombardements du régime sur cette partie de Damas. Je crois que c'était moi ça qui m'a marqué cette semaine.
Mais vous n'avez pas le sentiment au contraire d'une très grande impuissance et notamment d'une immense impuissance française malgré les discours, malgré les mots employés par le président de la République ?
Il y avait des discours, désormais on a une résolution adoptée à l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc on est passé à une étape importante de notre diplomatie. Est-ce que ça règle tous les problèmes ? Non. Est-ce que d'un coup de baguette magique, la situation du peuple syrien qui vit ce drame depuis 7 ans va s'arrêter ? Non. Mais c'est un premier pas qui était indispensable et qui s'inscrit dans la logique très multilatéraliste que le président de la République avait développée dans son discours à l'ONU en septembre dernier.
Justement, le président de la République avait fixé un certain nombre de lignes rouges et notamment l'usage d'armes chimiques qui aurait normalement dû déclencher une réaction française. On sait qu'il y a eu emploi d'armes chimiques à la Ghouta et pourtant la France n'a pas bougé.
Il y a une commission d'enquête internationale qui a été demandée et le président de la République l'a rappelé encore il y a quelques jours que si il est avéré que des armes chimiques létales militarisées sont utilisées contre des populations civiles.
Il est avéré, toutes les ONG sur place le disent.
Les ONG le disent, mais vous savez, il y a aussi des commissions d'enquête internationales et c'est dans le cadre du droit international qu'il faut se placer. Si la ligne rouge a été franchie, des sanctions militaires seront prises, y compris à l'initiative de la France. C'est ce qu'a rappelé le président de la République.
Et rétrospectivement, est-ce que ça mériterait pas une sorte d'hommage à François Hollande, qui avait eu le courage de dire que si la ligne rouge était franchie, on irait, et qui a été lâché par Barack Obama? Écoutez, et qui, sur ce plan-là, il n'avait pas les mains qui tremblaient.
Je ne vais pas faire l'exégèse des dernières années, mais en tout cas, il y a eu une faillite, manifestement, et une faillite collective en Syrie. Et donc, l'étape importante qui s'est produite hier au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle est indispensable, d'abord pour préserver la sécurité des civils qui subissent ces bombardements depuis des mois, et ensuite pour construire une solution politique et une sortir de ce conflit par une solution politique. Si la ligne rouge est franchie, à nouveau, des sanctions seront prises.
Le président de la République et Angela Merkel s'entretiendront avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'ils pourraient s'entretenir également avec Bachar el-Assad ?
Écoutez, pour l'instant, il faut s'entretenir avec Vladimir Poutine. Ce sera le cas cet après-midi. Et la question de savoir quelle est la place de Bachar el-Assad dans le processus n'est pas la priorité pour l'instant. La priorité, c'est de préserver la sécurité de ces populations civiles qui subissent depuis des années la répression du régime syrien.
Mais précisément, la résolution a été votée, les bombardements continuent.
Donc, les bombardements ont continué ce matin, elle a été votée hier soir. C'est un premier pas et il faudra faire en sorte qu'elle puisse être mise en application et mise en œuvre dès aujourd'hui.
Nathalie ?
Oui, qu'est-ce qu'on peut... Les lignes rouges, vous n'avez pas peur qu'à force d'employer cette expression, elles deviennent totalement bidons, pour parler vulgairement. Ça fait 5 ans, 6 ans qu'on fixe des lignes rouges, qu'on attend et puis il ne se passe rien. Est-ce que là, on pourrait aller plus loin si...
Le président de la République l'a rappelé, si la ligne rouge est franchie, nous irons plus loin.
Tout de suite, le zapping politique. Il est signé cette semaine, Élodie Forêt.
Et je vais vous dire quelque chose, Monsieur Bourdin, les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais abusé d'aucune femme. Et je n'ai jamais abusé de mon pouvoir.
Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ?
Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin.
Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux ?
Dans si les yeux, je la conteste.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
Qu'est-ce qu'on nous promettait déjà ? Ah oui, le nouveau monde. Bon, pour cette semaine, c'est raté, l'ancien monde est revenu au galop. Mêmes mots, mêmes excuses. Enregistré à son insu la semaine dernière par l'émission Quotidien, le patron des LR, Laurent Wauquiez, charge les médias. C'était mardi soir sur BFM face à Rutel Krief.
Toute cette affaire est tellement précieuse pour mettre sous la poussière tout le reste. Et vous le voyez d'ailleurs dans votre comportement, Emmanuel Macron.
Non.
Vous ne l'interrogez pas sur tout ce qui s'est passé. Mais moi, en revanche, quel déchaînement et quel défouloir médiatique.
On scrute ma vie au laser, cherchant la moindre erreur, la moindre faille, le moindre scoop. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? C'est à vous de répondre, et pas au tribunal médiatique.
Vous me permettrez au moins le sourire.
Je peux sourire aussi de la tactique de la victimisation, il n'y a aucun problème. C'est entre guillemets le jeu.
Et à ce jeu de l'ancien monde, Jean-Marie Le Pen est le champion. Le fondateur du FN, accroché à son poste de président d'honneur, publiera le 1er mars ses mémoires. Les bonnes feuilles sont déjà sorties dans la presse. Sans surprise, il y accable sa fille.
La manière dont elle s'est conduite avec son père lui sera sans doute un remords toute sa vie.
J'ai vu ce monde au bout du chemin. J'ai jamais su hisser les voiles. Les temps sont durs, on verra demain.
Quand il dit j'ai un peu pitié d'elle, il a surtout pitié de lui. C'est ça qu'il faut voir, parce que elle est en miroir, Marine. Hein. C'est de lui qu'il a pitié, parce que finalement, il a échoué.
Gilbert Collard, équipe Marine. Et Marion Maréchal Le Pen alors? Dans quel camp joue la Benjamine de la famille qui, à 2 semaines du congrès dit de la refondation du FN, est sortie de sa retraite politique, invitée à Washington par les conservateurs américains?
Je ne suis nullement offensée lorsque j'entends le président Trump dire « l'Amérique d'abord ». En fait, je veux l'Amérique d'abord pour les Américains, la Grande-Bretagne d'abord pour les Britanniques et la France d'abord pour les Français.
Vrai faux retour pour Marion Maréchal Le Pen, outre-Atlantique. Vrais adieux en revanche pour le PDG de Radio France, Mathieu Gallet. Condamné en première instance pour favoritisme et débarqué du Nouveau Monde, comme le souhaitait la ministre de la Culture Françoise Nyssen et comme l'a tranché le CSA.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Je vais partir quelques jours en vacances et puis ensuite je vais chercher du boulot, comme beaucoup de Français. Vous savez, c'est ce que j'ai dit à mes parents qui étaient inquiets pour moi. J'ai dit, vous savez, des gens qui se font virer, il y en a tous les jours dans ce pays et pas forcément dans les mêmes conditions que moi, donc je ne vais pas me plaindre. It's a new day, it's a new life for me.
Merci Élodie. Benjamin Griveaux, quelle image retenez-vous du zapping politique?
Il y en a de nombreuses. On a, je vous dis, beaucoup parlé de Laurent Wauquiez. Je retiens moi Marion Maréchal Le Pen qui fait une prestation devant le plus conservateur des partis républicains des démocraties occidentales, où elle se fait ovationner et où elle assume une ligne très dure.
Elle vous inquiète?
Vous savez, il faut toujours regarder avec beaucoup d'attention et beaucoup de vigilance ce qui se dit dans les différentes oppositions qui s'expriment. Et je n'ai pas de doute que Marion Maréchal Le Pen a arrêté la politique, à mon avis, pour un temps relativement court.
Quel principal opposant politique à Emmanuel Macron et à votre gouvernement?
Les conservatismes de tout poil. Et il y en a à gauche
et à droite.
Non,
mais c'est trop
facile. Non, c'est pas trop facile.
Est-ce que c'est Laurent Wauquiez? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon, comme on l'a dit pendant des mois? Est-ce que c'est Marine Le Pen?
Et vous trouvez d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, des alliances de fortune entre parfois la droite de l'hémicycle et l'extrême gauche de l'hémicycle qui applaudissent aux mêmes choses ou qui défendent avec quasiment les mêmes arguments les positions. Donc c'est face au conservatisme. Et vous avez à droite, à l'évidence, Laurent Wauquiez qui, depuis qu'il a pris la présidence des Républicains, s'est imposé en tout cas comme le responsable d'une partie de la droite française. Et j'insiste, d'une partie de la droite française.
Oui, l'autre est avec vous.
L'autre.
Non mais vous avez une droite française qui est sociale, qui est libérale, qui est européenne, qui est ouverte sur le monde et qui n'est pas d'inspiration maurassienne, si on dit les choses.
Celle d'Edouard Philippe,
puis,
par exemple.
Celle d'Edouard Philippe, celle de Jean-Pierre Raffarin, celle d'Alain Juppé. Bref, celle d'autres grands responsables politiques que la droite française a connue ces 20 ou 30 dernières années. Et puis vous avez à gauche eh bien la France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon. On va voir ce que le congrès du Parti socialiste va donner, parce que pour l'instant, il y a disons un problème de porte-voix.
Françoise,
vous avez appartenu au Parti Socialiste. Quel regard vous portez sur ce parti aujourd'hui?
un regard plutôt attristé pour les militants, si je suis très sincère, parce que je crois que les militants du Parti Socialiste, ils ont désespérément attendu que des débats de fond se tiennent ces 10 ou ces 15 dernières années en leur sein, et qu'il y a des questions de fond qui n'ont jamais été tranchées de manière très claire. Il y a des ambiguïtés sur l'Europe, il y a des ambiguïtés sur le modèle économique et social, il y a des ambiguïtés sur l'état de droit ou sur l'identité française. Et je crois que c'est peut-être un congrès de clarification, je suis pas certain que ce sera le cas, on va voir, on n'y est pas encore totalement entré de plein pied. Mais moi c'est plutôt ça qui m'attriste, c'est que ma pensée va à ceux qui sincèrement ont défendu des idées, un idéal, et qui sans doute n'ont pas trouvé dans l'incarnation des personnes qui
ont été
responsables du Parti Socialiste, eh bien,
avant votre portrait, ça, vous parlez de vous, c'est un autoportrait.
Non, c'est pas un autoportrait. Vous savez, moi, j'ai été militant dans une section qui était une section ouvrière en Saône-et-Loire, où j'avais une moyenne d'âge de la section qui était plutôt proche de 70 ans que de 40 ans, et où vous aviez des gens, sincèrement, qui étaient désespérés que ce soit des batailles de personnes qui l'emportent en permanence et qu'on ne tranche pas les questions de fond.
Alors justement, pour pas les désespérer, pourquoi est-ce que, dans la politique du gouvernement, on avait dit ni droite ni gauche ou et droite et gauche, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est et droite et que justement, vous faites pas des gestes pour pas désespérer encore plus ces fameux militants qui sont et qui étaient socialistes.
Quand on divise par deux le nombre d'élèves par classe dans les zones d'éducation prioritaire plus, on va m'expliquer que ça n'est pas concentrer les moyens publics et les capitaux publics là où il n'y a pas de capitaux privés. Donc on agit pour les classes populaires. Quand on s'attaque enfin à la question de l'apprentissage et qu'on veut valoriser l'apprentissage, est-ce qu'on ne s'attaque pas à un sujet fondamental pour les classes populaires que ni gauche ni droite n'ont vraiment attaqué de front? Quand on fait de la même manière sur la question agricole, la transformation du modèle, où on passe un modèle productiviste qui a été celui des années 60-70 de la PAC triomphante, à un nouveau modèle où on veut faire monter en gamme, on veut travailler sur le bio, on veut aller vers une agriculture plus qualitative, je ne sais pas si c'est de gauche ou droite, mais je suis sûr d'une chose, c'est que c'est la meilleure des solutions pour la génération qui vient.
Françoise, avant votre portrait, est-ce que vous vous revendiquez encore de gauche?
Moi, je viens de la gauche, je ne m'en cache pas. Mais d'une gauche.
Mais est-ce que vous estimez que vous l'avez quitté ou est-ce que vous êtes encore profondément un homme de gauche?
Moi, j'ai été marqué par Michel Rocard dans mes années jeunes d'engagement. Et Michel Rocard était pour moi.
Comme Édouard Philippe,
qui,
et pourtant il se dit de droite.
C'est pour moi quelqu'un qui.
Mais vous
faisait,
ne répondez pas à François Fessoz.
Non, mais est-ce que être de gauche. Si être de gauche, c'est permettre un équilibre entre l'économique et le social, et ne pas oublier que la République marche sur ses deux jambes, qu'il faut produire des richesses pour les redistribuer, et que la croissance n'a de sens que si elle est partagée, alors oui, je l'assume.
Donc oui,
ouais.
Vous êtes de gauche.
Je suis sur cette gauche-là.
Je veux juste vous l'entendre dire, ça n'a pas l'air évident, pas l'air facile à prononcer. Gabriel Attal, qui était à votre place la semaine dernière, le disait sans aucun problème.
Ce que je vous dis, c'est que je pense que la gauche n'a jamais dit cela en ces termes, et c'est sans doute cela qui a profondément troublé son électorat. Donc si c'est cela de gauche, je n'ai aucun état d'âme à vous dire que oui.
Votre portrait, Benjamin Griveaux, par Cyril Graziani.
Alors Benjamin Griveaux, vous ne laissez personne indifférent, et ça peut vraiment être une qualité. Quand ils vous décrivent, vos amis disent « Benjamin, il est intelligent, compétent, audacieux, ambitieux », ça n'est pas un gros mot, mais vous donnez parfois l'impression, là on vient de le voir, d'avoir comme une revanche à prendre sur votre vie politique, peut-être sur ces barons socialistes qui, pour beaucoup, n'ont jamais voulu vous faire une place de choix, vous laisser les clés, par exemple, en Saône-et-Loire, dont vous êtes originaire. Et quand on parle de vous à ces ex-amis du PS, eux ne sont pas tendres, logique, vous me répondrez, vous les avez quittés en 2015, et ils disent vous êtes méprisant, arrogant, parfois agressif. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas dans la rondeur, même si désormais, comme vous êtes porte-parole, vous avez dû vous atteler à cette rondeur en devenant donc porte-parole gouvernementale d'Emmanuel Macron. Il y a une question, sans Emmanuel Macron, où est-ce que vous seriez aujourd'hui? Le président... Vous marchez dans ses pas. On peut peut-être faire une réponse après. On verra, on finira.
Et ou puis tout,
après.
Suite, ou
tout de suite. Alors vous seriez
simple, Benjamin. Moi, je le dis très simplement. J'avais quitté la vie politique en 2014 parce que j'avais envie d'avoir une expérience au sein du monde de l'entreprise. Et j'avais quitté la politique en me disant que j'y reviendrais peut-être, mais enfin pas avant 5 ou 10 ans. Et que la raison pour laquelle je me suis réengagé en politique, c'est la rencontre avec Emmanuel Macron, avec le projet qu'il portait. Donc, s'il n'y avait pas Emmanuel Macron, je le dis très simplement, je serais aujourd'hui un papa peut-être plus présent pour ses enfants. Et je travaillais dans une entreprise, puisque j'y ai travaillé jusqu'à la fin de l'année 2016.
Alors, le président, justement, vous marchez dans ses pas, vous le suivez même à la trace. À Bercy, dans votre précédent poste, vous aviez choisi le même bureau qu'Emmanuel, c'est ce que vous aviez dit dans un portrait de Libération.
Le sixième et le cinquième étage étaient pris, restait le troisième étage. Et il se trouve qu'Emmanuel Macron occupait le troisième étage.
Vous êtes de la même génération, même âge, quelques jours d'écart, mais vous êtes lucide puisque vous dites qu'en comparaison, vous, vous avez l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps.
C'est-à-dire que lui en a gagné beaucoup. Et sans doute de manière à ce que personne ne pourra jamais le rattraper. Je ne crois pas que l'objectif ce soit de rattraper quiconque. Mais il a un parcours politique qui, je crois, a trouvé un écho, une résonance dans le pays parce que aujourd'hui, et c'était sans doute ça qui a tué les grands partis, c'est que le sésame de 30 ans de vie politique pour peut-être un jour pouvoir accéder à la présidence de la République ou aux responsabilités gouvernementales, ça n'est pas sans doute le meilleur moyen d'avoir des gens qui ont eu une vie avant, qui ont exercé des métiers, qui ont eu d'autres activités que la politique. Et c'est sans doute là la principale transformation qui s'est passée maintenant, il y a bientôt un an, à savoir qu'on a un président de la République qui n'avait pas fait 30 ans de politique, qu'on a des parlementaires dont l'immense majorité est issue du monde de l'entreprise, du monde associatif, du monde agricole. Bref, ce sont des Français, des députés à l'image des Français. Je crois que là, c'est une des très grandes transformations qui s'est passée il y a bientôt un an dans notre pays.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez été rocardien, strauss-kahnien. Ouais. Est-ce que c'est vrai que vous avez pleuré après l'arrestation de DSK à New York en 2011?
Non, puisque...
C'est ce que disent vos amis.
Oui, écoutez, le soir, je me souviens très bien, parce que le jour de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, j'étais au fond de mon lit avec 42 fièvres, et c'était le jour de déménagement, donc j'en ai gardé un souvenir assez ému. Je n'ai pas pleuré ce soir-là, je ne sais pas qui sont les amis qui n'étaient pas là, mais enfin, on fait dire beaucoup de choses à des amis dont je note toujours qui sont
ces ex-amis,
qui restent toujours confortablement cachés derrière l'anonymat.
Alors à l'époque, vous n'aviez pas choisi le bon cheval, on ne vous y a pas repris à deux fois, puisque vous rejoignez Emmanuel Macron très tôt, faisant partie du cercle fermé des proches, participant à la création d'En Marche. Dans la campagne, vous êtes chargé de la riposte, toujours les bons mots, parfois la dureté déjà. Porte-parole, c'est parfois un poste ingrat, mais est-ce que vous avez envie de porter la vôtre dans un avenir proche? Vous visiez la direction de La République En Marche, elle vous a échappé. On évoque maintenant la mairie de Paris, vous ne vous en cachez pas, quand la question vous est posée, vous répondez « ça m'intéresse ». Enfin, on vous dit fin cuisinier, vous avez une passion, les fourneaux, mais c'est à vous désormais de passer sur le grill.
Benjamin Griveaux.
Je suis aujourd'hui totalement dédié à la mission qui m'a été confiée et par le président de la République et par le Premier ministre, à savoir porter une parole collective au sein du gouvernement et donner le sens collectif de ce qu'on est en train de faire. Un gouvernement, c'est pas un ministre chacun dans son couloir de nage, c'est une action qui collectivement permet de transformer le pays. Et quand Jean-Michel Blanquer ou Frédéric Vidal changent la vie des élèves de ce pays ou des étudiants, eh bien ça sert à la transformation de notre modèle économique. Quand Muriel Pénicaud travaille sur les ordonnances travail, ça permet aussi de changer le modèle économique de notre pays. Donc moi, mon job aujourd'hui, c'est cela. Et rien que cela.
Et vous n'avez pas peur de donner le tournis aux gens? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une accumulation de réformes faites rapidement. On va revenir sur la SNCF tout à l'heure pour savoir comment vous envisagez de changer le statut des cheminots et tout le reste. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez fragiliser les gens et qu'ils ne vont pas pouvoir suivre en ayant l'impression que c'est urbi et orbi et que c'est difficile de suivre le mouvement?
Ma conviction, c'est que les gens, ils ont exprimé quelque chose de très simple l'année dernière dans le cadre de l'élection présidentielle, c'est qu'ils en avaient marre de 30 années d'immobilisme. Tout le monde est d'accord pour constater, et les constats que nous faisons, beaucoup les partagent depuis 20 ans. Il ne se passe rien derrière. Sur la question de la SNCF, sur la question du modèle agricole, sur la question du logement, sur la question du marché du travail, sur la question du capital, sur la question des entreprises. Souvent, il y a un consensus. Souvent, tout le monde dit c'est vrai que ça va. Sur la question de l'intégration, de l'asile et de l'immigration.
Donc, il n'y a pas
tout
trop de réformes.
Tout le monde convient que ça ne va pas. Il faudrait ne rien faire.
Il faudrait peut-être négocier.
Mais il y a beaucoup d'impatience dans le pays. Il y a beaucoup de colère. Et pour répondre à cette impatience et à cette colère, il faut pouvoir engager toutes les transformations en même temps. Pour une raison simple. Si on fait d'un côté le travail et pas le capital, ça ne fonctionne pas. Si on fait dans l'asile et l'immigration que la fermeté sans l'humanité, ça ne fonctionne pas. Et donc oui, on assume de porter l'ensemble de ces réformes en même temps. Pourquoi? Parce que transformer ce pays prendra du temps. Pour que les effets bénéfiques des politiques que nous mettons en place produisent leurs pleins effets, ça prendra du temps. Et on assume de l'avoir engagé tout dès les premiers mois, dès la première année de ce quinquennat.
Françoise Fressoz.
Nicolas Sarkozy, en 2007, avait agi un peu comme vous. C'est-à-dire qu'il avait ouvert une multitude de chantiers. Puis finalement, à la fin, quand on a regardé le bilan, il ne s'était pas passé grand-chose. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, au fond, d'étourdir et qu'on n'aille pas au fond des choses?
Quand je regarde les premiers mois, on est très loin des gesticulations qu'avait eu Nicolas Sarkozy en 2007. On a fait une réforme du marché du travail comme jamais elle n'avait été conduite en France, en quelques mois. On a profondément changé le rapport au capital dans le projet de budget. On a engagé une réforme ambitieuse sur les questions du logement, sur la question de la formation professionnelle, sur la question de l'apprentissage, sur le baccalauréat où certains présidents de la République s'étaient cassés les dents. Et tout ça, c'est une réalité. Le budget, il a été voté. Les ordonnances, elles ont été signées et elles ont été mises en œuvre. Donc, cette transformation, elle va s'ancrer dans le pays. Ça prend du temps et on assume de dire que parce que ça prend du temps, il fallait les conduire rapidement.
Et justement, parce que ça prend du temps, pour la SNCF, il faut passer par les ordonnances ?
Pour la SNCF, la question n'est pas de savoir s'il faut passer par les ordonnances. Le Premier ministre annoncera demain les grandes orientations, le calendrier. Non, mais le calendrier et la méthode. La question de la SNCF, elle est simple. On a une entreprise publique à 46 milliards de dettes, qui chaque année prend 3 milliards de déficit supplémentaire. C'est le budget de la culture, la moitié de celui de la justice. Et on est tous très attachés à avoir un transport public, un service public ferroviaire de qualité, mais qui s'est sans doute trop concentré ces dernières décennies sur les très grandes infrastructures et assez peu sur les mobilités du quotidien.
Je vous dis que c'est peut-être la première fois que quelque chose que Emmanuel Macron n'avait pas dit avant et va faire après. Alors que sur le reste, tout avait été annoncé avant.
Il avait évoqué la question de la SNCF pendant la campagne. Il l'avait évoqué. Et aujourd'hui, on est face à une situation où on a un besoin absolu d'avoir un service public ferroviaire plus moderne et qui réponde aux attentes des Français. Et les attentes des Français, c'est les mobilités du quotidien. C'est comment le matin, je vais de mon domicile à mon travail sans avoir des trains qui soient en retard ou des lignes qui soient pas fiables ou pas suffisamment modernisées. Voilà, c'est ça les enjeux, au fond, qui vont être portés au-delà de la question de la gouvernance, du statut des cheminots, etc. Mais c'est une réforme globale.
Mais la question de la méthode est importante puisqu'on sait que c'est extrêmement difficile de réformer notamment le statut des cheminots, que c'est une entreprise qui est très sourcilleuse sur son fonctionnement, sur son histoire, sur son ADN. Mmh. Est-ce que ça passera notamment par les ordonnances ?
Écoutez, ça, c'est une possibilité qui est dans la Constitution. La dernière fois que j'ai lu la Constitution, les ordonnances étaient dedans. Donc, cette possibilité-là existe. Ça n'est pas la priorité aujourd'hui. La priorité, c'est de présenter la stratégie, ce que fera le Premier ministre demain, une stratégie ambitieuse pour cette grande entreprise publique qu'est la SNCF.
Françoise. Alors, vous avez vu, la CFDT Cheminots, qui n'est pas le syndicat le plus contestataire, dépose un préavis de grève illimité. Est-ce que vous vous attendez à un conflit dur ? Et est-ce que vous êtes prêt à un conflit dur à la SNCF ?
Mais Benjamin avant Grégo. De déposer des préavis de grève, attendons de voir les propositions qui sont sur la table. C'est quand même une drôle de manière de procéder. Il y a eu un rapport qui a été remis par Jean-Cyril Spinetta avec des propositions. Ça n'est pas un rapport du gouvernement, c'est un rapport demandé à quelqu'un dont on peut considérer qu'il connaît bien les questions de transport. Donc ce rapport a été remis. On fera des propositions demain. Donc annoncer des préavis de grève avant que les propositions soient sur la table, qu'une fois que les propositions sur la table, ça puisse susciter des réactions, des durcissements, on y est parfaitement prêt. Enfin, le faire avant même que les propositions aient été présentées.
La CFDT, comme dirait François, c'est un syndicat réformateur avec lequel vous êtes déjà mal, ce n'est pas bien passé au moment des ordonnances. Pourquoi désespérer la CFDT ? On pourrait penser que vous s'appuyez plutôt...
Mais vous ne transformez pas le pays en essayant de ne pas désespérer un tel ou un tel. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à transformer en profondeur cette grande entreprise publique auquel les Français sont très attachés, qu'est la SNCF. Ni plus ni moins, pas de faire plaisir à un tel ou à un autre, de transformer réellement ce grand service public. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler.
Françoise.
Alors, on voit bien que l'un des points litigieux, c'est le statut de cheminot. Est-ce qu'une réforme de la SNCF passe obligatoirement par la remise en cause du statut, même si c'est uniquement pour les nouveaux entrants ?
C'est l'un des sujets qui sera sur la table. Mais moi, je ne sais pas expliquer que ce statut peut rester de manière inchangée. Le président de la République faisait hier la comparaison. Il était interpellé par un cheminot sur, dans le cadre du salon de l'agriculture.
Il faisait la comparaison
d'un côté
avec
des exploitants et des travailleurs du monde agricole qui n'ont pas de retraite ou quasiment, et de l'autre, un statut qui n'a pas bougé depuis un demi-siècle. Donc, on voit bien qu'il faut pouvoir adapter les règles, il faut pouvoir adapter les réglementations à un service public ferroviaire moderne et qui réponde réellement aux attentes des usagers qui chaque jour empruntent notre réseau de transport.
Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux est notre invité jusqu'à 13h.
France Inter, Ali Badou, question politique.
Question de Françoise Fressoz.
Comment est-ce que vous allez éviter que la grève, pas la grève à la SNCF, mais le malaise à la SNCF se propage dans l'ensemble du secteur public, sachant que là aussi, vous avez annoncé des intentions de réforme assez profondes, notamment la réforme du statut. Comment vous allez faire là ?
Benjamin Griveaux.
Ce qu'on a annoncé pour la fonction publique, c'est un grand mouvement de modernisation, à nouveau, de la fonction publique. On a beaucoup parlé du plan de départ volontaire. Moi, je considère que... quand on a choisi, par exemple, d'enseigner, quand on a 20 ans, et donc on engage une carrière dans l'éducation nationale, On peut peut-être, après 20 ans d'enseignement, avoir envie d'aller faire autre chose. Aujourd'hui, quel est le drame de notre fonction publique? C'est que dans les trois grandes fonctions publiques, vous avez moins de 5% de mobilité. Et entre les fonctions publiques, là c'est carrément inexistant, 0,5% de mobilité. Or, il n'est pas totalement irréaliste de se dire que si on a été, par exemple, 20 ans dans la fonction publique hospitalière, dont on sait que les métiers sont difficiles, y compris physiquement, on peut avoir envie de changer de fonction publique. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Et je ne parle même pas des passerelles entre le public et le privé. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut construire une administration numérique intelligente? L'objectif en 2022, c'est 100% des démarches possibles sur le numérique, via voie numérique. Bon. Vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont une formation dans les domaines du numérique, le statut de la fonction publique, c'est un carcan un peu qui ne correspond pas réellement à l'état d'esprit des jeunes qui veulent s'engager dans
une carrière numérique. C'est aussi une protection, Benjamin Grimaud.
On doit donc pouvoir...
C'est aussi une protection.
Oui, mais pour beaucoup, c'est une protection pour certains, mais pour beaucoup, on n'arrive pas à attirer des talents parce qu'ils préfèrent avoir des statuts contractuels. Donc, c'est simplement se dire que la manière dont on a construit nos trois fonctions publiques au sortir de la guerre, il y a plus de 70 ans, peut-être que ça peut un peu évoluer. Écoutez, on serait quand même le seul pays au monde, et ce serait le seul secteur en France où l'impact du numérique, les transformations du monde du travail, des relations ne seraient pas du tout impactées.
Mais vous avez en face des syndicats qui sont assez remontés, qui sont inquiets, qui mettent aussi d'autres revendications sur le devant de la table, notamment la question salariale, à l'hôpital notamment. Comment éviter un embrasement? On a l'impression que c'est une sorte de dialogue de sourds.
Ça n'est pas un dialogue de sourds, puisque le dialogue il va se poursuivre jusqu'au début de l'année 2019. Donc on a une année pour se parler, pour voir comment l'État, qui est un très mauvais DRH, devient enfin un bon directeur des ressources humaines, permet de la mobilité à ses cadres, permet de reformer des personnes, parce que vous pouvez ne pas avoir envie de faire pendant 40 ans le même métier dans la fonction publique. Ça ne veut pas dire en sortir. Et d'ailleurs, je le rappelle, le plan de départ, c'est volontaire, ça n'est pas obligatoire, et c'est permettre aussi à des personnes, eh bien, après une carrière dans la fonction publique de 20-25 ans, peut-être d'avoir envie d'aller tenter une expérience professionnelle à l'extérieur de la fonction publique. C'est simplement remettre de la mobilité dans quelque chose où les relations sont un peu figées. Comment est-ce qu'on évite l'embrasement? En se parlant, en mettant tout sur la table, sans cacher qu'il y aura des points difficiles, et en affrontant au fond, la demande probablement aussi d'une nouvelle génération de fonctionnaires. Moi, j'ai été marqué quand j'ai été élu local en Saône-et-Loire. J'avais des jeunes fonctionnaires de la fonction publique territoriale qui s'étaient engagés parce qu'ils aimaient les territoires et qui me disaient peut-être que dans 10 ou 15 ans, j'aurais envie d'aller faire autre chose. C'est aussi prendre en considération les attentes de nos fonctionnaires qui sont, je le rappelle, au service du public.
Cyril.
Sur le pouvoir d'achat, vous l'aviez promise, la hausse de la CSG pendant la campagne, mais aujourd'hui, elle passe mal, puisque bon nombre de retraités constatent aujourd'hui une baisse de leur pension. Pour certains, c'est 150 euros par mois. Alors, vous répondez souvent, ça s'équilibrera avec la suppression de la taxe d'habitation en fin d'année, mais d'ici octobre, comment vous allez gérer la bronca qui s'annonce? Encore une.
À nouveau, nous avions annoncé pendant la campagne présidentielle que nous augmenterions la CSG d'1,7. 40% des retraités ne sont pas concernés. 40% des retraités.
60% le sont.
60% le sont. Le chiffre que vous venez de donner de 150 euros par mois, ça veut dire que c'est pour une retraite de plus de 3500 euros. Hein. Parce que 1,7% de 3500, ça fait à peu près ça, 150 euros. Donc, sur les retraités qui ont des retraites élevées, il est vrai qu'ils ne bénéficieront pas, en tout cas que la suppression de la taxe d'habitation ne suffira pas à compenser la hausse de la CSG. 40% ne sont pas concernés. Pour les autres, la suppression de la taxe d'habitation. En moyenne, la taxe d'habitation, c'est 600 euros dans notre pays. Ce sera 200 euros de moins au mois d'octobre, 400 euros l'année d'après et zéro la dernière année. Donc, on assume ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'augmentation de la CSG? Parce que on regarde le sujet de manière très micro. C'est la transformation du financement.
De manière très micro, c'est-à-dire?
Et ça veut dire que derrière, il y a un changement profond du financement de notre modèle social. Et on assume de dire que, par exemple, le chômage, qui était un risque individuel et qu'on assurait de manière individuelle au sortir de la guerre, parce qu'il y avait quelques dizaines, voire centaines de milliers de chômeurs seulement, aujourd'hui, c'est un risque collectif. 3,5 millions de personnes au chômage. Et donc, ça n'est plus un risque qu'on peut demander aux gens de s'assurer de manière individuelle. Et donc, on assume de dire que on a fiscalisé, c'est-à-dire qu'on finance par l'impôt et qu'on assume de manière collective ce risque-là. C'est un choix de société. C'est un changement profond de notre modèle social. Et on assume de dire aussi, et ça le président de la République s'y était engagé, que pour la génération d'actifs, le travail doit mieux payer. Pourquoi ? Parce qu'on est très attaché à un principe simple, c'est la question de la répartition et d'un système par répartition entre les générations. Il est normal que la génération qui travaille puisse financer les retraites de la génération qui a beaucoup travaillé et qui a beaucoup donné. C'est dans cet équilibre-là global. Donc, il ne suffit pas de regarder le point 7 de CSG, il faut aussi parler de la baisse des cotisations sur les salaires. Notre objectif, c'est que le travail paye mieux.
Mais vous la comprenez, la grogne ?
Évidemment qu'on la comprend, on n'est pas sourd. Évidemment qu'on l'entend. Mais à nouveau, c'est à la fin de l'année où j'aimerais que les chiffres soient présentés.
Patience,
et qu'on n'oublie pas, et qu'on n'oublie pas qu'une mère célibataire avec deux enfants, début avril, touchera 136 euros de plus par mois. Et qu'on n'oublie pas que les étudiants qui payaient la mutuelle en septembre n'auront plus à la payer dans les montants précédents, à savoir 217 euros par mois, etc., etc. Que la prime d'activité va être revalorisée, que le minimum vieillesse va être revalorisé, que l'allocation adulte handicapé va être revalorisée. Et que cela se fait sur l'année, tout peut pas se faire d'un coup de baguette magique en une fois. Un, parce que nous avons pris des engagements financiers que nous entendons respecter vis-à-vis de nos partenaires européens. Et parce que le sérieux budgétaire, c'est aussi la meilleure garantie pour l'État de maîtriser notre déficit, d'accord, de maîtriser notre
en
dette.
Clair,
Nathalie
pardon, Saint-Clair,
François
c'est comme
François
le froid entre le ressenti
endetté et
le réel.
Un État endetté est un État qui n'a plus de marge de manœuvre.
Entre le, vous voyez, le ressenti et le réel avec la température, le pouvoir d'achat ressenti, c'est comme avec un petit plus, vous vous donnez combien de temps?
Mais les réformes, mais
j'ai bien compris elles, tout ce que vous avez égrené. Les réformes, à
mais
partir
elles
de
vont
quand
porter le... leurs fruits sur la totalité du quinquennat. Non, mais... Et d'ici la fin de l'année, il y aura un résultat très tangible. Très tangible, c'est que quand vous payez 500 euros de taxe d'habitation à Paris, vous payez pour la même surface 1500 euros à Argenteuil, eh bien vous n'aurez plus 1500 euros à payer à Argenteuil au mois d'octobre, mais 1000 euros, c'est 500 euros de moins.
Françoise Pressoz.
Alors vous disiez réforme de fond du système social avec la CSG qui est au fond redonner à l'État le pouvoir un peu sur la protection sociale. Alors il y a une grosse interrogation en ce moment sur le rôle des partenaires sociaux, sur l'assurance chômage, la formation professionnelle. Ils ont négocié. Ils sont tombés d'accord sur deux textes et on entend la ministre du Travail dire « je reprendrai pas tout, mais certains éléments ». Est-ce que c'est pas quand même une boulette de maltraiter comme ça les partenaires sociaux, de les laisser négocier puis après de leur dire « bah écoutez, on va pas tout reprendre de ce que vous mais dites ».
Benjamin Griveaux.
C'est pas une question de maltraiter. Il est normal que les partenaires sociaux puissent négocier, qu'ils fassent des propositions. Il n'est pas totalement anormal que le gouvernement décide de reprendre certaines des mesures, des propositions qui sont faites, certains des points qui ont abouti, mais pas la totalité. Enfin, écoutez, l'assurance chômage, c'est 30 milliards de déficit. C'est 4 milliards par an. Donc, il est quand même pas invraisemblable. Et le prêteur, en dernière sorte, celui qui solvabilise le système, c'est qui ? C'est l'État. Il n'est pas anormal quand l'État solvabilise un système, qu'il ait son mot à dire, et qu'il puisse, cela puisse se faire dans une discussion
c'est
franche.
Plus que son mot à dire, là,
avec les ça puisse se faire dans une discussion franche, avec les partenaires sociaux. On est très attaché au dialogue social. Les ordonnances travaillent. Porté par Muriel Pénicaud, ça a été une loi de décentralisation sociale. Ça permet aux partenaires sociaux de donner du grain à moudre dans les petites entreprises et non pas de tout fixer au niveau de la loi. Ça, les partenaires sociaux l'ont parfaitement compris et je suis certain que les discussions qui vont se poursuivre donneront lieu à des avancées, et y compris à la reprise de certains
mais
points qui ont été avancés par les partenaires sociaux.
Depuis le début du quinquennat, vous avez quand même, vous êtes confronté à ce procès. Finalement, le gouvernement fait tout seul. Le Parlement ne sert pas à grand-chose et les partenaires sociaux, on les concerte quand ça nous arrange, mais sinon, on les laisse de côté. Est-ce qu'il n'y a pas, au fait, un risque de dérive, je dirais pas autoritaire, mais en tout cas personnel, de dire c'est nous, au gouvernement, qui avons la vérité ?
Non, mais un, il y a eu des élections. C'était au mois de mai, au mois de juin dernier. Il y a eu un projet qui n'a rien caché à personne. Tout a été mis sur la table. Et donc, il y a une légitimité démocratique, à la fois pour le président de la République, mais aussi pour le Parlement. Quand on dit que le Parlement est mis de côté, enfin, écoutez, 8000 amendements discutés, 68 projets de loi votés en l'espace, 68 lois votées, pardon, en l'espace de 8 mois. C'est un des parlements qui travaille le plus, où vous avez un taux de présence à l'Assemblée nationale tout à fait remarquable. C'est aussi le fait du non-cumul des mandats. Et donc, on a des parlementaires qui travaillent, chacun en convient. Et pour les plus experts, les chevronnés de l'Assemblée nationale, chacun reconnaît que les textes sont plutôt de meilleure qualité et qu'on a des lois moins bavardes et sans doute plus efficaces. Le pacte, le projet de loi qui va être présenté par Bruno Le Maire et Delphine Gény-Stéphann d'ici quelques semaines, ça a été des milliers de contributions, 5 mois de travail, avec des duos entre un chef d'entreprise et un parlementaire. Gérard Collomb, le projet de loi asile-immigration, des centaines d'entretiens avec des parlementaires. Donc qu'on nous explique que le Parlement ne remplit pas son rôle, ça n'est pas exact, j'entends la petite musique, mais c'est pas parce qu'on est déterminé avec des objectifs précis qu'on maltraite le Parlement ou les partenaires sociaux.
Donc Gérard Larcher n'a rien compris.
Nathalie Sacré-Cœur.
Lui qui considère que vous avez une légère tendance quand même à essayer de court-circuiter tout ça. Alors je ne suis pas comme Laurent Wauquiez à dire que c'est une dictature et que les députés sont des guignols, mais il y a quand même chez certains élus, et notamment Gérard Larcher, il vous donne du fil à retordre.
Mais sans doute n'avait-il pas l'habitude que lorsqu'on a une détermination et un objectif, rien ne peut nous écarter du chemin que nous avons tracé.
Ah bah c'est bien d'être
clair. Alors comment expliquez-vous la chute de popularité du président de la République en ce cas ?
Écoutez, moi je ne commande pas les chutes, les hausses, et puis
vous commandez les
chutes. Non, je ne commente rien, ça me permet de ne pas avoir à commenter les baisses, ne pas commenter les hausses, ça permet de ne pas avoir à commenter les baisses. Ceux qui ont gouverné le nez rivé sur les sondages, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme le dit l'adage, vous voyez. Donc nous, on a notre seule boussole, c'est le projet qu'on a porté devant les Français, c'est l'envie de transformer ce pays qui en a désespérément besoin et ce ne sont pas les sondages qui vont nous en empêcher.
Alors il y a une phrase du président de la République cette semaine qui résume ce que vous dites, qui dit « je suis là pour faire, je ne suis pas là pour plaire ». Mais est-ce qu'on peut avoir une détermination réformatrice comme vous l'affichez et ne pas vous soucier des éventuelles oppositions ? Autrement dit, est-ce qu'à un moment vous n'allez pas vous prendre le mur à force de vouloir avancer en vous disant finalement on est mu par une volonté et personne ne nous arrêtera.
Mais Benjamin Griveaux.
Nous écoutons les oppositions, nous les entendons, nous entendons la grogne, nous entendons la colère, nous entendons les impatiences. Le sentiment c'est qu'elles sont parfois tournées contre certaines réformes que nous portons, mais qu'elles sont aussi tournées vers une classe politique qui quand même a laissé le pays dans un état d'immobilisme flagrant depuis des décennies. Le président de la République, quand il s'exprime devant les jeunes agriculteurs, jeudi à l'Élysée, le millier de jeunes agriculteurs qu'il reçoit, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit ça fait des décennies que l'État n'a pas pris ses responsabilités, que vous ne gagnez pas suffisamment au regard du travail que vous fournissez et que les responsabilités sont partagées. Il y a l'État, on prendra les nôtres. Il y a la question des fédérations professionnelles et elles doivent se structurer, notamment en filière. Et puis quand même, il y a un grand responsable aussi là-dedans, la grande distribution. On a fait les États généraux de l'alimentation. J'ai signé, en présence des représentants de la grande distribution, avec Stéphane Travert, il y a quelques mois seulement, une charte où ils s'engageaient à mieux payer et à mieux rémunérer les producteurs.
Et tout le monde dit que ça marche pas.
Et on regarde là les négociations commerciales, ils ne respectent pas leurs engagements.
Alors qu'est-ce
et
que
donc,
vous faites ?
Ah ben c'est très simple. Nous, on prendra nos responsabilités et on pourra inscrire des choses dans la loi. Si les grands distributeurs ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris devant l'État et qu'ils ont signés, eh bien, des sanctions seront prises, des contrôles, des sanctions et potentiellement des choses dans la loi.
Nathalie Saint-Cricq.
Je voudrais qu'on vienne à momentanément, à la mairie de Paris. Comment vous réagissez à les dernières décisions d'Anne Hidalgo qui a l'air de refuser absolument toute sanction du tribunal administratif ? Est-ce que vous trouvez qu'elle a tort ou alors qu'elle a finalement raison et qu'elle a raison à terme ?
Benjamin Griveaux.
Comme porte-parole du gouvernement, je n'ai pas à commenter les décisions d'Anne Hidalgo, maire de Paris.
Vous pouvez être intéressé par Paris.
Non mais, je suis député de Paris, donc par définition, quand on est député d'une ville, on s'intéresse un peu à ce qui se passe dans la ville. Vous voyez, sans qu'on prête d'autres intentions. Si un député de Paris ne s'intéresse pas un tout petit peu à ce qui se passe à Paris, c'est sans doute qu'il y a un sujet.
C'est pour ça que vous me posez la question.
Mais, moi je l'ai dit, et donc je vais le redire pour la énième fois, l'objectif poursuivi est le bon. Il faut faire baisser les problèmes de pollution atmosphérique dans les métropoles, que ce soit d'ailleurs à Paris, mais dans d'autres métropoles qui ont aussi des pics de pollution à particules fines. C'est un problème de santé environnementale. On sait que c'est 40 000 personnes qui sont frappées chaque année. Donc l'objectif, je n'ai pas de difficulté, je le partage.
Alors vous avez une difficulté
à 100%.
Avec la méthode ?
J'ai un sujet sur la méthode. Parce que quand on est une métropole, à Paris comme ailleurs, on ne peut pas prendre des décisions unilatérales au sein de Paris intramuros, c'est-à-dire pas sans interroger le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis. Parce que ce sont de ces territoires-là aussi que viennent les véhicules qui passent en particulier sur les voies sur berge. Et on peut considérer qu'objectivement, il y a un petit sujet de circulation à Paris depuis quelques mois, depuis que cette décision a été prise. Donc c'est en discutant, en trouvant des solutions alternatives, est-ce que c'est des parkings relais, est-ce que c'est des voies dédiées,
etc. En fait, vous êtes sur la ligne de Valérie Pécresse, un peu, ces manques de concept.
Je sais pas si je suis sur la ligne de Valérie Pécresse, je suis sur la ligne du bon sens, vous voyez. Je suis juste sur la ligne du bon sens.
Alors,
donc il faut pouvoir se parler avec les territoires limitrophes. Paris, qui ne prendrait des décisions que pour les Parisiens, c'est une mauvaise manière de procéder.
Ça veut dire que Anne Hidalgo ne pourra pas faire autrement que de revenir en arrière et de rétablir la circulation automobile sur les voies sur berge ?
Non, mais non, parce que à nouveau, l'objectif est le bon. Mais la question, c'est de savoir, manifestement, ça crée des problèmes
de circulation. C'est ce que disait Gérard Collomb ce matin.
Ça crée des problèmes de circulation. Et donc, c'est comment est-ce qu'on anticipe ces problèmes? L'objectif est le bon. Vraiment. Je veux dire, pour les générations qui viennent, je ne veux pas, moi, que mes enfants grandissent dans une ville polluée où on a, à intervalles réguliers, pendant les périodes hivernales ou pendant les périodes estivales, quand il n'y a pas de vent, des pics de pollution en particules fines. Ça n'est bon pour personne. Ça, chacun peut en convenir.
Françoise Pressoz.
En tout cas, il y a toute une série de sujets sur lesquels la maire de Paris est en difficulté. Il y a effectivement les voies Suberges, il y a aussi Vélib, il y a le procès sur la propreté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème Anne Hidalgo? Est-ce que c'est un problème d'Anne Hidalgo et de ses alliés? Qu'est-ce qui ne marche pas à Paris en ce moment?
Écoutez, moi, je n'ai pas à nouveau vocation à commenter ce qui se passe bien ou pas à Paris.
Vous êtes élu de Paris?
Oui, je suis élu de Paris, je suis parlementaire. Et je ne siège pas au Conseil de Paris. Quand vous annoncez des décisions, il faut s'assurer que la mise en œuvre soit effective. Et c'est au fond ce qui nous est notre signature, ou en tout cas ce à quoi on est très attentif au sein du gouvernement. C'est que quand on annonce une décision, ce que les Français ne comprennent pas, c'est qu'elle ne soit pas mise en œuvre. Quand vous votez une loi, que les décrets mettent 18 mois à 2 ans à être pris et à être signés, c'est totalement aberrant parce que les Français n'y comprennent plus rien. Et donc, l'engagement qu'on a pris, et c'est sans doute là, c'est-à-dire que la politique, c'est dire, mais c'est faire. Et quand le président de la République...
C'est un sacré procès que vous lui faites. Vous êtes en train de dire que l'équipe de la mairie de Paris n'est pas opérationnelle,
non, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on prend des décisions qui impactent à ce point la vie quotidienne de ses administrés, on s'assure que la décision, elle est solide sur le plan juridique et qu'elle tient dans la durée. Simplement ça. Parce que sinon, vous prenez des décisions et on est dans le discours politique uniquement. On n'est pas dans le faire. Et moi, je suis dans le faire parce que vous ne pouvez pas demander à vos concitoyens, vous ne pouvez pas rendre des comptes si vous n'avez pas fait. Et donc, il faut s'assurer que quand on prend une décision, on est en mesure de la mettre en œuvre.
Mais la politique, ce sont aussi des discours. Est-ce que vous comprenez l'attaque de Laurent Wauquiez contre Emmanuel Macron lorsqu'il lui reproche « Je n'aimais que Paris ». Que symbolise Paris pour que ce soit une critique?
C'est savoureux de la part de Laurent Wauquiez qui a passé sa prime jeunesse à Paris et qui a été d'ailleurs un très bon étudiant, major de l'agrégation d'histoire, major de normal, major de l'ENA. Il a dû passer un peu de temps lui aussi à Paris. Je trouve que c'est un bien mauvais procès et je trouve surtout que c'est un procès qui est très éloigné de la réalité. Le premier déplacement que fait Emmanuel Macron suite à sa démission de Bercy à la fin du mois d'août 2016, c'est à Aurillac et c'est auprès d'un exploitant agricole qu'est née d'ailleurs l'idée de la question du droit à l'erreur. Parce que cet exploitant faisait face à une réglementation totalement absurde qui avait fait qu'en 2 ans, en 5 ans, il avait dû changer 2 fois son pédiluve pour une question réglementaire un peu stupide. Pédiluve, pour lui, c'est 2 mois de salaire. Et quand on sait les revenus qu'ont aujourd'hui les exploitants agricoles, vous imaginez le désarroi dans lequel il était.
Mais Françoise Précieuse, il faisait référence tout à l'heure, l'image de président des villes, elle colle malgré tout à Emmanuel Macron. Et il y a une étude d'ailleurs, Françoise, qui
plus à Laurent Wauquiez d'après cette étude.
65% des Français hein, qui ne lui font pas confiance, en tout cas, pour défendre les agriculteurs.
Et je crois que Laurent Wauquiez, c'est 84%. Comme quoi, la communication, ça fait pas président de la République. Image, voyez.
Pas encore. Alors Benjamin Griveaux, juste un mot encore sur Paris, puisque
non,
vous êtes très bon dans la profession.
Si j'ai à peu près saisi sa stratégie politique.
Et dans l'exercice d'avocat, vous êtes élu de Paris dans une circonscription qui couvre les 3e et les 10e arrondissements. On peut dire que c'est en plein cœur de Boboland, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la géographie parisienne. Mais le Bobo, c'est l'un des personnages les plus détestés en France. On les accuse de tous les maux. J'aimerais qu'une fois, un politique prenne la défense des Bobos. Vous avez la parole, Benjamin Griveaux. Allez-y.
Je vais vous dire quelque chose, Alibadou. Le 3e arrondissement... Il y a le 10e arrondissement. Il y a la Grange-Aubel dans le 10e arrondissement. La Grange-Aubel, je vous assure que c'est pas Boboland. Donc il faut arrêter aussi cette
idée. Donc même vous, vous n'arrivez pas à défendre
attendez,
le Bobo.
Non, mais attendez. Parce que vous savez, l'idée instillée par Laurent Wauquiez, qu'à Paris, tout le monde serait riche, que des start-upers et des milliardaires qui auraient pas de problème. C'est bien mal connaître le centre et le cœur des métropoles parce que vous avez au cœur de Paris et au cœur des grandes métropoles françaises des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté avec les minima sociaux. Donc cette caricature qui considérait que tous les gens qui vivent dans le milieu rural et dans le monde agricole sont en dessous du seuil de pauvreté et seraient éloignés des bénéfices de la mondialisation et que ceux qui vivent au cœur d'un métropole, eux, en seraient les bénéficiaires. C'est bien mal connaître le pays parce que je crois qu'on a des personnes qui vivent dans le monde rural et qui en vivent bien et c'est heureux. On a des exploitants agricoles qui vivent de leur profession et de l'exercice de leur métier et on a au cœur des villes...
Vous n'arrivez pas, même vous, à dire du bien des bobos.
Mais...
qui sont au cœur de votre électorat.
Moi, je ne sais pas ce que c'est un bobo.
Bonne réponse. C'est celui notamment qui va être pour vous. Cyril Graziani.
Sur la mairie de Paris, est-ce que vous pensez sérieusement à une candidature en 2020?
J'ai déjà eu l'occasion de le dire à 15 ou 16 reprises. Mmh. Ça n'est pas le sujet du moment. Celui qui pense que on commence par la candidature avant d'avoir parlé diagnostic et projet, les cimetières politiques en sont remplis. Donc d'abord un diagnostic sérieux sur la situation à Paris, mais comme dans l'ensemble des villes
vous
où
l'avez
nous
fait,
présenterons des
vous
candidats.
L'avez fait tout à l'heure.
Un diagnostic sur l'ensemble des politiques qui ont été conduites. Et moi, à nouveau, je demande le temps long pour le gouvernement. Je demande qu'on soit jugé à la fin. Je ne vais pas juger Anne Hidalgo à 2 ans de la fin de son mandat. Ce serait pas correct. Ce serait pas honnête intellectuellement de ma part. Donc d'abord un diagnostic qui sera conduit dans l'année qui vient, ensuite un projet et se posera la question de la tête qu'on met sur l'affiche. Si on commence par la tête sur l'affiche, croyez-moi, on n'a aucune chance d'y arriver.
Nathalie Saint-Cricq.
Concernant le grand froid qui va s'abattre sur la capitale et le recensement qui a été fait il y a quelques jours, parce que manifestement les chiffres du gouvernement et ceux de la mairie de Paris ne sont pas les mêmes puisqu'on a atteint 3000.
3600, 700 personnes ont été mises à l'abri, donc on est à 2900.
Qu'est-ce qu'on fait là?
Il y a un plan grand froid qui a été déployé dans 37 départements. Il y a surtout des places en hébergement d'urgence qui ont été déployées à nouveau, beaucoup à Paris. Au total, on est à 149 000 places.
Pour
on
les
a augmenté de
15
000 places supplémentaires le nombre de places en hébergement d'urgence en un mois. Donc c'est ça qu'on va faire, c'est plus de places d'hébergement d'urgence. Puis moi, je veux saluer le travail des associations parce qu'elles font un travail très difficile.
Donc vous pensez que pour la semaine à venir, puisqu'on nous annonce...
Beaucoup de vigilance, et je vais vous dire, j'appelle aussi à beaucoup de vigilance nos concitoyens parce que on est parfois... quelques-uns à passer sans même regarder ce qui se passe en bas de chez nous, au pied de son immeuble, dans le square à côté. C'est aussi de la vigilance collective et je sais que nos concitoyens, ils sont solidaires.
Question de Françoise Fressoz.
Je rebondis là-dessus parce qu'on sent que depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron essaye de remettre la société en mouvement, de lui dire d'être en marche comme il l'est lui-même. Et on sent que par moment, il est presque en colère de ne pas y arriver autant qu'il pourrait. Est-ce que ce n'est pas ça la grosse limite du macronisme, c'est ne pas avoir encore trouvé le levier pour remettre la société en marche?
Mais je ne crois pas du tout. Pour une raison simple, c'est que la vitalité du monde associatif en France est extraordinaire. Et s'il y a bien un endroit où la société est en mouvement, c'est dans le monde associatif français. C'est dans le monde de l'entreprise. C'est dans le monde de l'entrepreneuriat social et solidaire. Là où la société était à l'arrêt, c'était dans les grands partis politiques où il n'y avait plus que des militants qui voulaient être élus.
Et en même
remettre
temps...
la société en mouvement, c'est aussi s'appuyer sur le monde associatif qui parfois... fait mieux que les pouvoirs publics dans les missions qui lui ont été confiées.
Mais en même temps que le principal adversaire pour le moment d'Emmanuel Macron, c'est justement le milieu associatif en ce qui concerne l'accueil
des migrants.
On voit bien que ce sont eux qui se sont mobilisés contre le nouveau projet de loi.
Ça n'est pas la lecture qui est la mienne. Il y a eu des discussions nombreuses entre les parlementaires, entre le monde associatif. Il y a des associations, et notamment des associations qui interviennent localement. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner le président de la République lors de son déplacement à Calais. On a rencontré autour d'une table ronde le soir l'ensemble des associations. Vous avez des associations locales qui sont très à l'écoute et par ailleurs...
Non, mais les grandes associations, que ce soit la CIMAD, que ce soit Médecins Sans Frontières, enfin, ils ont claqué la porte et plus d'une fois du bureau de Gérard Collomb. Il y a un problème entre le gouvernement et les associations.
D'autres y sont restés. Moi, je demande à ce qu'on soit jugé sur le texte qui a été présenté, puisqu'on débattait d'un projet de loi qui n'était connu de personne. Maintenant, le projet de loi, il est sur la table, et donc c'est là-dessus qu'on peut discuter, y compris avec le monde associatif.
Il reste quelques secondes, Cyril Gardiani.
Tout à l'heure, quand vous évoquiez la SNCF, vous avez parlé des 46 milliards de dettes, donc vous évoquiez donc une forme de mauvaise gestion. Il y a une autre réforme qui s'annonce, c'est l'audiovisuel public. Pourquoi vouloir réformer une entreprise qui fonctionne et qui fonctionne bien, à l'inverse?
Benjamin Griveaux.
Vous avez, dans l'audiovisuel public, une transformation profonde qui s'est passée, qui est la question du numérique. On avait un écran par foyer il y a 20 ans. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 5 à 6 écrans, que ce soit les smartphones, les tablettes, les écrans de télévision. Et l'audiovisuel public doit aussi faire cette transformation. Elle a commencé
encore,
à s'y engager.
Là encore, il est leader sur le numérique.
Elle a commencé à s'y engager, mais... quand on voit ce qui peut se faire sur les médias numériques, que ce soit à l'étranger ou d'ailleurs en France sur d'autres types de supports, sans doute la transformation peut-elle aller encore plus loin sur l'audiovisuel public. L'objectif, c'est pas de mettre à bas l'audiovisuel public, c'est au contraire de se dire qu'il faut qu'il rencontre, par les contenus qu'il développe, un nouveau public.
Juste une question, Marlène Schiappa, les monologues du vagin, le chef de l'État, Pierre Leloup, vous avez un projet théâtral, vous avez beaucoup de temps libre au gouvernement.
On aime la culture et on assume d'avoir... le président de la République est un amoureux de la culture et je crois que les Français sont sensibles. Les Français sont sensibles à la culture. Et Pierre et le Loup, c'est une magnifique pièce qui sera jouée, je le rappelle, pour les personnels de l'Élysée et pour leurs enfants.
Merci Benjamin Griveaux d'avoir été notre invité. Bon dimanche. Merci à tous les trois. Question politique se termine. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. Quant à moi, je vous retrouve juste après le journal de 13h pour le grand face-à-face de France Inter. Et je vous dis donc à tout de suite.